chapitre 34. Raoden s'était trompé sur les hommes de Shaor. Certains vinrent ce soir-là faire cuire leur nourriture, une faible lueur de conscience dans leurs yeux. Les autres, la grande majorité d'entre eux, n'en firent rien. Ils se trouvaient là pour une toute autre raison. Raoden les regarda traîner un énorme bloc de pierre sur une luge que Maresh avait fabriquée. Ils avaient totalement perdu l'esprit. Leur immersion prolongée dans un état de folie avancée avait définitivement altéré leurs pensées rationnelles. Alors que certains s'en étaient remis, au moins partiellement, d'autres paraissaient irrécupérables. Ils n'avaient pas réussi à faire le lien entre le feu et la cuisson. Ils s'étaient contentés de rester debout à pleurer, vexés et bouleversés de ne pas savoir comment consommer le grain. Non, ces hommes n'étaient pas tombés dans son piège. Ils étaient venus de leur propre gré, parce que Raoden avait détrôné leur dieu. Le prince avait fait une incursion sur le territoire de Shaor et réussi à s'en sortir indemne. Aux yeux de ces hommes, celui qui gérait la nourriture détenait le pouvoir, et cette personne pouvait la rendre immangeable pour les uns ou délicieuse pour les autres. Ces hommes avaient déjà battu la bande de Shaor à plusieurs reprises. Dans la conception simpliste du monde de leur esprit indigent et dégénéré, il n'y avait qu'une seule chose à faire face à un dieu plus puissant que le leur, se convertir. Ils vinrent le jour qui suivit sa tentative pour leur rendre leur intelligence. Raoden était en train de marcher le long du mur d'enceinte de la nouvelle Elantris lorsqu'il les avait aperçus dans la rue principale de la ville. Il avait alors alerté ses hommes, persuadé qu'il s'agissait d'une attaque. Il comprit bientôt que les hommes de Shaor n'étaient pas venus pour se battre, mais pour lui offrir un cadeau. La tête de leur ancien dieu. Du moins, sa chevelure. Le meneur des fous avait jeté la tignasse blonde aux pieds de Raoden dans la gangue noire et stagnante d'Elantris. Malgré leurs recherches, ses compagnons n'avaient pas réussi à retrouver le corps de Shaor. Ensuite, les fous avaient mis leur face contre terre, laissant la toison de leur dieu déchu dans la vase. Ils faisaient désormais tout ce que Raoden leur demandait. En retour, ils les remerciaient en leur jetant des morceaux de nourriture comme à des animaux de compagnie. Le prince souffrait de devoir traiter ses hommes comme des bêtes. Il fit d'autres tentatives pour leur rendre leur raison, mais baissa les bras au bout de 2 jours à peine. Ces hommes ne savaient plus penser, et même si le dor ou la psychologie fournissaient une explication, jamais ces individus ne guériraient. Ils étaient remarquablement sages, dociles même. Ces hommes ne semblaient pas souffrir, et ils accomplissaient n'importe quelle tâche, qu'elle fût domestique ou physique, avec docilité. Si Raoden leur demandait de démolir un bâtiment, ils les trouvaient quelques jours plus tard toujours à l'œuvre, tentant de faire tomber les dernières pierres à main nue. Mais malgré leur obéissance affichée, Raoden ne leur faisait aucune confiance. Ils avaient assassiné Saolin, tué leur précédent maître. Ils restaient calmes uniquement parce que leur dieu leur rappelait régulièrement de l'être. « Qayana !» fit Galadon en le rejoignant. « Il n'y a aucune amélioration, n'est-ce pas ?» demanda Karata. Qayana était le nom que Galadon leur donnait. Cela signifiait « malade ».« Pauvres âmes !» murmura Raoden. Galadon secoua la tête. « Tu nous as demandé de venir, Sulé ?»«
Oui, suivez-moi. »
Le surcroît de main-d'œuvre que les Qayana représentaient permit à Maresh et à ses ouvriers de reconstruire certaines pièces de mobilier en pierre. Ainsi n'eurent-ils pas à utiliser les réserves de bois trop largement entamées. Le bureau sur lequel Raoden étudiait à la chapelle était celui qui avait servi pour rappeler à Tahan sa vie passée de tailleur de pierre. Une large fissure, remplie de mortier, courait au milieu du plateau. Mais en dehors de cela, le meuble était en parfait état. Seuls les motifs sculptés avaient légèrement passé. Une pile de livres se trouvait sur la table. La reconstruction de la nouvelle Elantris exigeait de Raoden un comportement de chef, une activité qui ne lui permettait pas de retourner régulièrement à la bibliothèque secrète. Le prince avait donc rapporté plusieurs ouvrages d'un coup. Les gens étaient habitués à le voir un livre à la main et ne le questionnaient jamais sur ce sujet, même si ses volumes avaient toujours leur couverture en cuir. Il étudiait assidûment tout ce qui concernait l'Aondor, et il souffrait de plus en plus. Parfois, la douleur le mordait avec une telle férocité qu'il s'évanouissait,
Il devait alors lutter pour ne pas se laisser mourir. Elle était encore supportable, mais grandissante. Cela faisait maintenant un mois et demi qu'il se trouvait à Elantris, et il ne pensait pas qu'il tiendrait un mois de plus.
« Je ne vois pas pourquoi tu nous fais part de la moindre de tes découvertes au sujet de Laondor, Sulé, » dit Galadon, qui soupira en voyant Raoden s'approcher de lui, un livre ouvert à la main.
« Je comprends à peine la moitié de ce que tu nous racontes. » « Galadon, tu dois te forcer à mémoriser ces choses, » dit Raoden. « Peu importe ce que tu penses. Je sais que tu as les capacités intellectuelles de le faire. »«
Peut-être, » admit Galadon. « Mais cela ne veut pas dire pour autant que cela m'intéresse. La Hondor est ton passe-temps, pas le mien. »«
Écoute-moi, mon ami, » répliqua Raoden. « Je sais que la solution à nos problèmes est liée à la Hondor. Avec le temps, et en étudiant les livres anciens, nous arriverons à trouver les clés qui nous manquent. Mais, » poursuivit-il en gardant un doigt levé, « si quelque chose devait m'arriver, quelqu'un devra continuer mes recherches. » Galadon ronchonna.
« Tu as autant de chances de devenir Oued que moi, Fjordel. »«
Je cache bien mon jeu. »« Ce n'est pas l'important, » répondit Raoden. « Il serait stupide de ne pas chercher de solution. »« J'écrirai toutes ces choses, mais je veux que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire. » Galadon soupira.
« Très bien, Sulé. Qu'as-tu découvert? Un nouveau modificateur d'Aon qui permettrait d'en augmenter la portée ?»
Raoden sourit. Non, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je sais pourquoi Elantris est pleine de vases. Karata et Galadon devinrent soudain plus attentifs.
Vraiment ?
Demanda Karata en baissant les yeux sur le livre ouvert.
Est-ce que l'on explique cela là-dedans ?
Non, je l'ai déduit à partir de différentes sources, dit Raoden. L'élément clé, en revanche, se trouve juste là. Il leur montra une illustration.
Laon haché ? Demanda Galadon.
Exact, dit Raoden. Vous connaissez cette rumeur selon laquelle les Élantriens avaient la peau si soyeuse qu'elle rayonnait?
C'était vraiment le cas, fit Galadon. Ce n'était pas flagrant, mais lorsque mon père pénétrait dans une pièce plongée dans le noir, on pouvait voir sa silhouette.
Eh bien, c'était grâce au Dor, expliqua Raoden. Chaque corps Élantrien était en permanence connecté au Dor. Ce même lien unissait le Dor à Elantris. Même si aucun érudit n'explique pourquoi dans les livres. Le Dor avait investi la cité tout entière. Les pierres et le bois brillaient comme si un feu avait brûlé en permanence.
Cela devait empêcher de dormir, fit remarquer Karata.
Non, il suffisait de couvrir les objets, dit Raoden. Mais l'effet que produisait la cité lumineuse était si merveilleux que beaucoup d'Élantriens l'acceptaient comme une chose naturelle et arrivaient à trouver le sommeil malgré la lumière.
Fascinant, commenta Galadon d'une voix indifférente. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la vase?
Elle est composée de champignons et d'humus qui vivent normalement en pleine lumière, expliqua Raoden. Le Dor émettait une lueur différente de celle du soleil et favorisait la pousse d'une espèce particulière de champignons. D'après ce que j'ai lu, une fine pellicule transparente recouvrait tout. Les Élantriens ne prenaient pas la peine de la nettoyer. Elle était imperceptible. Mais elle augmentait l'intensité du jour. Cet humus était résistant et ne faisait pas de dégâts, jusqu'à ce qu'il meure.
Et que la lumière disparaisse, commenta Karata.
Et que les champignons pourrissent, ajouta Raoden en hochant la tête. Pendant des générations, l'humus a recouvert la ville. Aujourd'hui, c'est la vase.
Et alors, quel nouvel élément ces explications t'apportent-elles?
Demanda Galadon en bâillant.
Une pièce de plus dans le puzzle, expliqua Raoden. Une nouvelle piste qui permet de comprendre ce qui s'est réellement passé lorsque le Réod a frappé. Nous devons revenir en arrière, mes amis. Nous découvrons seulement les symptômes d'un événement qui a eu lieu voilà 10 ans. Nous parviendrons certainement à comprendre l'origine du Réod lorsque nous en aurons cerné les conséquences.
La façon dont vous expliquez la présence de la vase paraît plausible, mon prince, dit Karata. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'anormal concernant cette crasse. Il m'est arrivé de rester dehors par temps de pluie, l'eau avait beau frapper la pierre, celle-ci restait toujours aussi sale. «
Cette vase est grasse, » fit Raoden, « et repousse l'eau. Avez-vous déjà entendu Kahar expliquer combien elle est difficile à nettoyer ?»
Karata hocha la tête tout en feuilletant le livre.
« Ces livres contiennent énormément d'informations. »
En effet,
dit Raoden. Mais les érudits qui les ont écrits sont rarement explicites. Il faut s'armer de patience pour trouver des réponses à des questions précises.
À quoi pensez-vous ? Demanda Karata.
Raoden fronça les sourcils. Eh bien, je n'ai pas trouvé la moindre explication sur l'origine des Séones, par exemple.
Dans aucun de ces livres ? Commenta Karata surprise.
Raoden hocha la tête. Je sais bien que la Hondor générait les Séones, mais aucun livre n'explique comment.
La plupart des ouvrages abordent la transmission de Séones célèbres d'une personne à une autre.
Mais cela s'arrête là.
La transmission ?
Reprit Karata en fronçant les sourcils. Le fait de donner son Séon à quelqu'un d'autre, expliqua Raoden, lorsque l'on en possède un, on peut le transmettre, ou lui dire quelle personne il est censé retrouver et servir après votre mort.
Une personne ordinaire pourrait posséder un Séon ?
Dit-elle.
Je croyais que c'était uniquement réservé aux nobles.
Raoden secoua la tête. Le propriétaire précédent en décide.
Et un noble ne transmettrait certainement pas son Séon à un paysan pris au hasard, commenta Galadon. Les Séons, comme la fortune, doivent rester dans la famille. Colo ?
Karata fronça les sourcils. Mais que se passe-t-il si le détenteur du Séon meurt sans avoir pu lui dire qui rejoindre ?
Raoden s'interrompit, puis regarda Galadon en soupirant.
Ne me regarde pas, Sué, fit Galadon. Je n'ai jamais eu de Séon.
Je n'en sais rien, reconnut Raoden. Je suppose qu'il choisirait son nouveau maître tout seul.
Et s'il n'en voulait pas d'autre ?
Demanda Karata.
Je ne pense pas qu'il aurait le choix, dit Raoden. Il y a quelque chose dans la relation d'un Séon à son maître. Ils sont liés d'une certaine manière. Ces êtres deviennent fous d'ailleurs lorsque le Shaod prend leur maître. Je pense qu'ils ont été créés pour servir. Cela fait partie de leur essence magique.
Karata abonda dans son sens.
Seigneur Esprit !
Appela une voix toute proche. Raoden haussa les sourcils tout en refermant le livre.
Monseigneur !
Dit Daché qui entra comme une tornade dans la pièce. Le grand élantrien semblait plus confus qu'inquiet.
Qu'y a-t-il, Daché ?
Demanda Raoden.
C'est le Gyorn, monseigneur, répondit Daché avec un regard enflammé. Il est guéri ?